Vous écoutez France Culture.
9h05 sur France Culture, Emmanuel Laurentin, la fabrique de l'histoire.
Merci pour ce journal, prochain journal de la rédaction à 12h30, mais tout de suite, la fabrique de l'histoire à 9h05. Troisième temps d'une semaine consacrée dans la fabrique de l'histoire à l'histoire des Templiers. Comme tous les mercredis, une émission fondée sur des archives et en particulier sur ce qui fut dit des Templiers au 19e siècle. Nous aurons donc avec nous, outre Anaïs Quien qui a préparé cette semaine, l'historienne Simonetta Cherini qui a fait sa thèse sur la règle du Temple et vient de publier chez Perrin La Révolution des Templiers, l'historien Yann Potin, enseignant en histoire médiévale à Nanterre, et le comédien Claude Aufort qui nous lira des extraits de la tragédie de 1805 de François-Marie Raynouard sur les Templiers et également des extraits du tome 3 de l'histoire de France de Michelet. Avec eux, nous tenterons de comprendre la naissance de l'ordre du Temple, généralement occulté par sa fin tragique, son histoire et sa particularité dans le monde de la spiritualité médiévale. Car les Templiers représentent, selon Simonetta Cherini, une radicale nouveauté en ce qu'ils dépassent la séparation entre clair et laïc dans un XIIe siècle, où les échanges, selon elle, toujours entre Orient et Occident, étaient bien plus nombreux que le simple récit des combats entre croisés et musulmans peut le laisser penser. Saint-Bernard, lettre en louange de la nouvelle chevalerie.
Une nouvelle chevalerie vient, dit-on, de naître parmi nous, dans le pays même où jadis le Verbe de Dieu a pris chair. En ces lieux bénis où de sa main puissante il dispersa les princes des ténèbres, l'épée des braves achèvera bientôt d'en exterminer les derniers satellites, je veux dire les infidèles. Ils rachèteront en quelque sorte une seconde fois la nation élue et restaureront pour nous la puissance de David. Chevalerie nouvelle, certes, est telle que le monde n'en a pas encore connue jusqu'ici. Destinée à mener le double combat sans relâche contre la chair et le sang et contre les esprits de ténèbres. Qu'un homme engage toutes les forces de son corps dans sa lutte contre un ennemi corporel, le fait n'est pas rare et je m'en étonne peu. De même, si contre le vice et les séductions du démon, il déploie les forces de l'âme, le monde est plein de moines qui livrent ce combat. Mais ceux que j'admire au-delà de toute expression, ce sont ces héros, à l'audace encore inouïe, qui, dans leur courage, se sont ceints du double glaive et du double baudrier. Le chevalier, qui d'un même mouvement a revêtu son âme de la cuirasse de la foi et son corps de la cuirasse de fer, sûr de toutes parts, peut rester intrépide. Muni de l'une et l'autre armure, il ne craint ni l'homme ni le démon. Loin de redouter la mort, il la désire. Le Christ est sa vie. La mort est un gain. De quoi aurait-il peur? Sa vie est confiance et abandon à Dieu. Il ne pourrait avoir qu'une préférence d'être libéré des liens de la chair et d'achever son union avec le Christ. Allez donc en toute certitude, chevalier, et chargez avec courage les ennemis de la croix de Jésus, certains que ni la mort ni la vie ne pourront vous séparer de la charité de Dieu qui est le Christ. Au milieu des dangers, répétez-vous le mot de l'apôtre. Vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Réjouissez-vous si vous survivez à votre victoire. Réjouissez-vous davantage encore si la mort vous unit à Dieu. La vie en effet est féconde et la victoire glorieuse. Mais une sainte mort est plus grande. Car si ceux-là sont bien heureux qui s'endorment dans le Seigneur, combien plus heureux encore ceux qui sont morts pour lui.
Un enregistrement de 1958, il y a très exactement 50 ans, pour l'émission Analyse spectrale de l'Occident, grande émission qui reste dans la mémoire justement avant même l'existence de France Culture, puisque France Culture a été créée en 1963, mais qui justement tentait, autour de la personnalité d'Alphonse Dupron, de faire l'histoire des croisades. Yann Potin, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être dressons le portrait d'Alphonse Dupron rapidement pour expliquer pourquoi on avait choisi à cette époque-là de confier à Alphonse Dupron, professeur en Sorbonne, justement, ce travail sur les croisades. C'était le plus grand spécialiste de l'époque.
Pour ce qui est des croisades, en effet, il avait été en contact avec Paul Alfandéry dans les années 30, dont il avait recueilli les travaux, et il a publié justement en 1954 et 59 un livre dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel, La chrétienté et l'idée de croisade, et qui reste d'ailleurs un des plus grands classiques du XXe siècle sur l'histoire des croisades.
Et grand orateur, grand professeur, et c'est aussi pour ça qu'on lui confie des émissions de radio, parce que surtout ceux qui s'en souviennent et ceux qui ont suivi ses cours, comme Mona Ouzouf ou bien d'autres, se souviennent de sa voix, de son timbre et de la façon dont il savait raconter justement ses croisades.
Voilà. Et un orateur qui aussi, puisque c'était l'époque, tenté pas mal de passerelles entre l'anthropologie et l'histoire, peut-être de façon moins éclatante que d'autres historiens à l'époque, puisque une grande partie de son œuvre a été publiée après sa mort, puisqu'il est mort en 1990, et un de ses grands ouvrages qui correspond à sa thèse d'état est Le mythe de croisade, justement. Publié chez Gallimard en 4 volumes.
Alors, Simonetta Cherini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous au téléphone. Vous êtes auteur, je l'ai dit, de La Révolution des Templiers chez Perrin. Donc, un travail fondé sur votre thèse. Vous avez fait votre thèse autour de la spiritualité de l'ordre du Temple. Et ce qu'on vient d'entendre de Saint-Bernard est fort intéressant, puisque évidemment, ce texte de Saint-Bernard, bien plus long, c'est un extrait qu'on a entendu, enregistré en 1958. Ce texte sur la cuirasse de la foi et la cuirasse de fer est un texte qui est assez souvent, voire toujours, joint à la règle du temple.
Tout à fait. C'est un texte très important et qui a constitué en quelque sorte une sorte de passe pour les Templiers dans le contexte donc des autres ordres religieux et des hiérarchies ecclésiastiques de l'époque jusqu'au procès, car les Templiers quand même disent qu'ils avaient l'habitude de lire ce texte de Saint-Bernard qui avait été écrit pour eux. Et donc c'est à mon avis le premier cadeau que Saint-Bernard fait aux Templiers. On peut bien dire qu'il a été le parrain de cet ordre. Et le deuxième cadeau, à mon avis, c'est l'organisation, il a produit, pour ainsi dire, le concile de Troyes.
Oui, ce concile donc, qui va faire que cet ordre va être institué en 1129, 9 ans ou 10 ans, on ne sait pas très bien, après sa naissance à Jérusalem. Anaïs Quien.
Oui, bonjour Simonetta Cherini. Justement, puisqu'on parle de la création de cet ordre, comment peut-on définir, en tout cas caractériser, ce qui singularise cet ordre religieux par rapport aux autres de son époque ?
Alors, la nouveauté est vraiment énorme. J'ai osé parler de révolution. Car en effet, d'abord il faut dire que c'est le premier ordre religieux qui soit en même temps militaire de l'histoire de la chrétienté. Le même Saint-Bernard, dans son traité en louange de la nouvelle chevalerie, parlait encore d'une nouvelle chevalerie. Mais après 1129, on pourra parler d'un nouvel ordre religieux militaire. La nouveauté est absolue.
Parce que vous expliquez dans votre travail que cette nouveauté est absolue parce qu'elle revient sur la séparation entre clercs et laïcs et que justement il y a dans cet ordre des Templiers, dans cette naissance de l'ordre des Templiers, une jonction entre ceux qui prient et ceux qui font la guerre. On se souvient évidemment des travaux de Georges Duby sur la tripartition fonctionnelle de l'Occident médiéval.
Absolument. À mon avis, le cœur du problème pour ce qui concerne les Templiers est la gestion du sacré. À cette époque, comme vous disiez justement, il y avait un imaginaire qui divisait et partageait la société en trois parties. Oratores, donc ceux qui prient, Bella Torres, ceux qui combattent, mais en fait l'autorité publique, et les laboratores, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Mais les Bella Torres et les laboratores faisaient partie, étaient tous des laïcs, alors que les oratores étaient les clercs. Donc les Templiers, et surtout l'intuition de Maître Hugues, le fondateur, veulent unir les deux ordres, des clercs et des laïcs pour en faire qu'un seul.
C'est cela la révolution selon vous?
C'est la révolution. Parce que à ce moment vient de se mettre en place l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc une Église institutionnelle, cléricale, centrée sur l'autorité de l'évêque de Rome, donc du pape. Mais auparavant, on avait l'Église, avant la réforme grégorienne, était bien différente. Et la gestion du sacré revenait tout autant au clerc qu'au roi, donc au laïc.
Oui, Yann Potin, sur ce que vient d'avancer Simonetta Cherini.
En effet, la concordance est troublante entre la réforme grégorienne, ce qu'on appelle traditionnellement réforme grégorienne, et qu'en fait, quelque chose, un phénomène qui s'étale sur plusieurs décennies et qui commence au XIe siècle et qui, justement, en 1122, quasiment de manière, avec le concordat de Worms, trouve un point, sinon d'aboutissement, du moins une résolution, c'est-à-dire cette question du partage très net, et ce qui va différencier d'ailleurs le christianisme d'Occident par rapport au christianisme d'Orient, entre les clercs et les laïcs.
Et donc quasiment en même temps, donc naît cet ordre des Templiers.
Ce qui est à la fois logique et en même temps paradoxal, puisque précisément cet ordre va mêler les deux. Donc est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? C'est une question que je pourrais peut-être poser aussi à Simonetta Cherini.
Alors, on va y venir ensuite. Peut-être, Yann Potin, est-ce que vous pouvez nous présenter, ou Anaïs, vous nous présenter ce texte de Renoir qu'on va entendre aujourd'hui, ce François-Marie Renoir. Donc, ça s'appelle Les Templiers. C'est une tragédie en vers de 1805.
Voilà, c'est François-Juste-Marie Renoir.
Donc, qui nous est plaisant, puisque la rue derrière la maison de la radio s'appelle la rue Renoir, et c'est le même Renoir, en l'occurrence, dont on parle, donc tragédien de la fin du 18e et du début du 19e siècle.
Voilà, en fait, cette tragédie date de 1805, et elle est remarquable, car c'est la première utilisation littéraire du thème templier, en fait. Et cette utilisation se fait sous Napoléon, Yann Potin.
Oui, en 1805, peu de temps justement après le concordat, le fameux concordat entre l'empereur et le pape, en 1801, et quelque part Napoléon, qui est à la recherche à ce moment-là de littérateur officiel à sa gloire, pour chanter sa gloire, va particulièrement mettre en valeur cette pièce, quoiqu'elle soit pas inoubliable, mais elle est symptomatique d'un élément quand même très fort, c'est ce besoin de la narration pour compenser toujours l'absence de documents, d'archives justement, concernant les Templiers. Et effectivement, il se trouve que ça correspond exactement au même moment, en 1804 pour être plus précisément, à la fondation plutôt d'une secte néo-templière, sous la direction d'un certain docteur Ledru, qui va justement finalement lancer une nouvelle phase des légendes templières. Donc il y a cette concordance et cet aller-retour en permanence entre la narrativité littéraire et l'absence cruelle de documents.
Alors si on a oublié cette pièce et ce drame, donc cette tragédie de Renoir, on se souvient en tout cas du premier vers qu'on va entendre dans cette tirade de Laigneville, lue par Claude Aufort.
Mon cœur est innocent, mais ma bouche est coupable. J'ai fait de faux aveux et j'en suis indigné. Des pleurs du repentir, mon visage est baigné. Vos regards m'ont instruit de l'excès de mon crime. Mais aurais-je perdu tout droit à votre estime? Hélas, je n'ai pas eu la force de souffrir. Je puis tout réparer. Je puis encore mourir. De mon funeste exemple, ô suite déplorable, plusieurs autres guerriers, encore irréprochables, témoins de ma faiblesse, ont soudain hésité. Enfin, ils ont trahi l'honneur, la vérité, vaincu par la douleur et gémissant de l'être, l'un de nos chevaliers a nommé le grand maître. À peine il prononçait votre nom glorieux, les larmes du remords ont coulé de nos yeux. Soyons dignes de lui, chacun de nous s'écrie. Reprenons notre honneur en cédant notre vie. Devant l'inquisiteur, tous se sont présentés pleurant de leurs aveux, tous les ont rétractés, comptaient sur leur vertu.
Un extrait donc des Templiers de Renoir, 1805. Simonetta Cherini, un des vrais problèmes de l'historien travaillant sur ces sources qui permettent de faire l'histoire des Templiers, c'est qu'on a le début et qu'on a la fin, et que souvent la fin, donc le procès des Templiers, masque le début, la naissance et pourquoi on a créé cet ordre.
Sûrement la fin de l'ordre, avec toute l'attention que les historiens et même maintenant les grands publics y ont consacré, en fait, depuis des siècles, a un peu effacé l'intérêt porté sur les Templiers du départ. En fait, c'est un peu bizarre de mon point de vue, excusez-moi mon français, ça fait très très longtemps que je ne parle plus français.
Non, ne vous inquiétez pas, il est très bon, hein. Continuez.
Merci. Mais donc, ce qui m'a toujours frappée, je suis philologue comme formation, c'est que personne ne s'était vraiment pas intéressé aux Templiers du départ, alors qu'il y a quand même pas mal de manuscrits encore, et surtout ce qu'aujourd'hui on peut se baser sur le manifeste de l'ordre du Temple, qui est le texte écrit par son fondateur. Donc,
alors c'est ce que vous pensez, vous dites que c'est son fondateur, on n'en est pas tout à fait sûr, vous affirmez que c'est donc Hugues, dit Hugues de Payen, qui est responsable de ce texte-là, on a longtemps cru que c'était Hugues de Saint-Victor, vous dites non, ce texte manifeste, c'est bien Hugues Payen, donc le fondateur de l'ordre du Temple, qui l'a écrit, Simonetta Cherini.
Oui, en fait, c'est depuis 50 ans que les savants s'interrogent sur l'identité de Hugo Peccator, Hugues le pêcheur, qui a écrit donc ce texte. Moi aussi, j'ai pensé pendant un certain temps qu'il puisse s'agir de maître victorin Hugues de Saint-Victor. Mais maintenant, les acquis de plusieurs chercheurs ont permis de se fixer et de décider en fait que l'auteur est bien maître Hugues, le fondateur donc de l'ordre du Temple.
Ce qui veut dire, oui, que pour vous, c'est ce qui veut dire qu'on a bien un texte d'un des fondateurs, du fondateur de l'ordre du Temple, ce qu'on ne croyait pas jusqu'à maintenant.
Tout à fait, c'est ça la grande nouveauté, parce que cela nous permet d'ajouter au texte de Saint Bernard à la règle latine, surtout originaire de l'ordre du Temple, qui est bien différente par rapport à la version française que l'on utilise normalement. Et en plus, on permet d'ajouter ce texte, en fait, méconnu, mais essentiel, qui est l'idée même du fondateur de l'ordre. Qu'est-ce qu'il pensait des Templiers ?
Yann Potin.
Oui, juste pour circonscrire un peu ce personnage, il faut mentionner qu'il est champenois et qu'on est...
Ah, mais si Simonetta Cherini dit, il est peut-être pas champenois, on n'est pas sûr. Mais, enfin, a priori, tout le monde dit qu'il est champenois.
En tout cas, il y a des relations troubles entre la Champagne et les débuts de l'ordre du Temple. Quand je dis trouble, pas trouble, pas non, mystérieux, si, mais disons
pas dire trouble,
intense.
Quand on
parle de troubles sur les Templiers, les Templiers
sont très clairs.
Ne parlons
pas de secret, ne parlons pas de mystère, ne parlons pas de troubles.
Non, mais disons qu'en tout cas, il y a des liens très très forts entre la Champagne et les débuts de l'ordre du Temple, ne serait-ce que parce que le comte de Champagne lui-même va devenir templier. C'est quand même pas anodin. Et c'est important à mentionner en termes de contextualisation, parce que la Champagne, à ce moment-là, elle est surtout connue pour ses foires.
Ah bah oui,
et c'est une des cœurs, c'est un des cœurs, pardon, un des moteurs économiques, social et politiques, ne serait-ce parce qu'il est à la frontière entre la France et l'Empire, entre le Royaume de France, je veux dire, et l'Empire, que ce soit un des terreaux possibles, je ne m'avance pas, de cet ordre-là. Donc ça signifie bien que c'est on est sur un front pionnier, pas simplement à Jérusalem, mais aussi au sein même de l'Occident.
Oui, Anaïs Kien.
Oui, peut-être que c'est l'occasion de parler de cette figure emblématique des grands maîtres de l'ordre du Temple, puisque donc ces grands maîtres dirigent une armée et également un ordre monastique, donc position très enviée, on l'imagine, par de nombreux souverains à l'époque. Simonetta Cherini.
Allô ?
Oui, vous avez entendu la question d'Anaïs Kien. Elle disait qu'en fait, le grand maître du Temple avait cette particularité de diriger à la fois donc, des militaires et puis aussi un ordre monastique, et donc d'avoir une position très enviée par rapport à d'autres dignitaires dans les royaumes d'Occident en particulier.
Oui, et évidemment, le maître, qu'après on l'appellera le grand maître de l'ordre du Temple, avait à quoi faire en même temps avec des frères qui étaient aussi des chevaliers. Et la particularité en fait de ce personnage, frère chevalier, était celle qui, pour laquelle on avait donc un frère anti-ascétique, à mon avis, et ainsi qu'un chevalier anti-héroïque. Donc pour pouvoir lier ces deux côtés, laïque, clair et laïque, dont on parlait auparavant, la règle forme un personnage très particulier parce que c'est bien un frère, donc disons entre le moine et le chanoine, pour ainsi dire, quand même un homme religieux.
Ça n'est pas tout à fait un chevalier dans le sens classique. Ça n'est pas tout à fait un chevalier dans le sens classique du terme, puisque dites-vous, il n'a pas à faire étalage de sa force physique, voilà. Il n'a pas à faire étalage de sa largesse, de ses prouesses, puisque justement, il est dans une sorte de modestie monacale, et donc ça en fait un personnage entre les deux.
Voilà, tout à fait. Et en même temps, c'est un personnage très difficile à rejoindre. Parce que c'est vraiment un idéal très très haut, d'autant plus qu'il n'est pas jamais reconnu, qu'il n'utilise pas même la force qui vient d'une ascèse exacerbée à la limite, ou la force qui vient de la conscience de son héroïsme. Tout ça doit tomber absolument.
Oui, Yann Potin.
Oui, alors... Deux choses. On voit bien donc, dans ce que dit Simonetta Cherini, que le Templier est un homme de la frontière, et à tous les niveaux, aussi bien de la frontière entre les clercs et les laïcs, que de la frontière entre chrétienté et non-chrétienté, puisque ce qui justifie cette incroyable concentration des figures héroïques de l'Occident, le saint et le chevalier, disons le moine et le chevalier, qui d'ailleurs s'inscrit dans une certaine continuité depuis le Xe siècle. Il y a des dans la logique de christianisation des élites aristocratiques, il y a eu des échanges entre élites chevaleresques, élites monastiques permanentes. Je prends par exemple l'exemple de la figure de Géraud d'Aurillac au Xe siècle, qui est un chevalier devenu moine. Donc on a des échanges sans cesse et une tentation, si j'ose dire.
Urbain II soi-même, le pape donc, qui prêche la croisade à Clermont, ancien petit chevalier, mais chevalier tout de même.
Voilà, tout à fait.
Et donc, moine aussi, puisque passé par Cluny.
Voilà, donc des figures comme ça, il y en a de très nombreuses, et donc c'est bien une tentation. Donc la question c'est, qu'est-ce qui justifie ce passage à l'acte qui consiste à instituer, au début du XIIe siècle, eh bien, une figure fixe du moine et du chevalier, et effectivement derrière ça ne peut être que la croisade et la défense des lieux saints.
Réponse brève selon vous, Simonetta Cherini, à la question de Yann Potin, qu'est-ce qui justifie justement cette figure-là, l'accession de cette figure-là, disons, dans la société de l'époque ?
Sûrement la frontière, donc j'aime bien ce terme, à mon avis c'est correct, mais j'insiste sur la nouveauté de ce nouveau... sur la nouveauté en fait, du Templier, car l'ouverture qu'il dérive de cette union entre les clercs et les laïcs, c'est une ouverture aux travailleurs, c'est à la dignité du travail, c'est une ouverture aux femmes, c'est une ouverture à la langue vulgaire, et c'est une ouverture aussi à des pratiques religieuses populaires ou carrément à d'autres religions. Et ça, c'est une grande nouveauté.
Ça, c'est votre thèse. On y reviendra après la lecture par Claude Aufort du deuxième extrait que nous avons choisi. C'est un extrait, évidemment, du tome 3 de l'Histoire de France de Michelet, La spiritualité des Templiers.
Le Temple avait pour les imaginations un attrait de mystère et de vague terreur. Les réceptions avaient lieu dans les églises de l'ordre, la nuit et portes fermées. Les membres inférieurs en étaient exclus, on disait que si le roi de France lui-même y eût pénétré, il n'en serait pas sorti. La forme de réception était empruntée au rite dramatique et bizarre, au mystère dont l'Église antique ne craignait pas d'entourer les choses saintes. Le récipiendaire était présenté d'abord comme un pécheur, un mauvais chrétien, un renégat. Il reniait à l'exemple de saint Pierre. Le reniement, dans cette pantomime, s'exprimait par un acte craché sur la croix. L'ordre se chargeait de réhabiliter ce renégat, de l'élever, d'autant plus que sa chute était plus profonde. Ainsi, dans la fête des folles ou idiots, l'homme offrait l'hommage même de son imbécilité, de son infamie, à l'Église qui devait le régénérer. Ces comédies sacrées, chaque jour moins comprises, étaient de plus en plus dangereuses, plus capables de scandaliser un âge prosaïque qui ne voyait que la lettre et perdait le sens du symbole. Elles avaient ici un autre danger. L'orgueil du temple pouvait laisser dans ses formes une équivoque impie. Le récipiendaire pouvait croire qu'au-delà du christianisme vulgaire, l'ordre allait lui révéler une religion plus haute, lui ouvrir un sanctuaire derrière le sanctuaire. Ce nom du temple n'était pas sacré pour les seuls chrétiens. S'il exprimait pour eux le Saint-Sépulcre, il rappelait aux juifs, aux musulmans, le temple de Salomon. L'idée du temple, plus haute et plus générale que celle même de l'Église, planait en quelque sorte par-dessus toute religion. L'Église datait et le temple ne datait pas. Contemporain de tous les âges, c'était comme un symbole de la perpétuité religieuse. Même après la ruine des Templiers, le temple subsiste, au moins comme tradition, dans les enseignements d'une foule de sociétés secrètes, jusqu'aux Rose-Croix, jusqu'aux francs-maçons. L'Église est la maison du Christ, le temple est celle du Saint-Esprit. Les gnostiques prenaient pour leur grande fête non pas Noël ou Pâques, mais la Pentecôte, le jour où l'Esprit descendit. Jusqu'à quel point ces vieilles sectes subsistèrent-elles au Moyen-Âge? Les Templiers y furent-ils affiliés? De telles questions, malgré les ingénieuses conjectures des modernes, resteront toujours obscures dans l'insuffisance des monuments.
Pas mal tout de même, Michelet. Hein. 1832, c'est ça?
De 37.
37. Parce que le donc 1837 3. Pour le tome 3. Et effectivement, là, on est tout de même, on a une analyse extrêmement subtile et en même temps déjà relativement moderne de ce que pouvait être justement cet ordre du temple, Yann Potin.
Alors d'autant plus subtil qu'au même moment, et c'est ce texte qui se termine sur l'insuffisance des monuments, et il faut bien insister sur le fait qu'effectivement les archives de l'ordre du temple ont pour leur quasi-totalité disparu, ce qui fait, ce qui explique pourquoi on est toujours ramené hein, à ces mêmes grands textes fondateurs ou au contraire exterminateurs comme le
Alors justement, peut-être qu'on peut faire un point en disant ce qui nous reste des archives de l'ordre du temple, concrètement.
Eh bien, essentiellement des pièces épars et puis surtout donc le procès. Et alors là, par contre, avec force de détails et force de pièces de procédure. Et puis c'est pour ça aussi qu'on évoque cette question de la fondation très importante. La règle qui est à la fois une archive et en même temps une maxi archive et ses commentaires. Donc c'est surtout dans ses commentaires. Donc mais la règle c'est toujours pareil, impose une norme dans la pratique. Bon, alors après on voit les Templiers dans des chroniques, on peut les voir aussi dans des transactions financières, ce qui a permis de d'étudier une partie justement
et de faire d'eux là, mythologiquement encore les banquiers d'Occident, voilà, avec quoi n'est pas d'accord Alain de Murger par exemple.
Voilà, on peut voir passer les Templiers dans de nombreux documents sur les deux siècles de leur existence, mais des documents produits par eux. Et une fois la règle mise à part, il y en a extrêmement peu. Et Michelet, justement, c'est juste pour revenir un instant sur le texte de Michelet, en 1837, tellement conscient à la fois ce fatalisme de la perte des archives et en même temps de la nécessité d'essayer de les recueillir, s'est engagé au même moment à publier le procès des Templiers. Donc, en 1837, et le premier volume paraîtra en 1841. Donc, là, on est en plein dans la prise de conscience d'une histoire fondée sur les documents et non plus seulement sur les traditions.
Oui, Simon et Tacherini, tout de même, on en retrouve quelques-uns de ces documents. Vous en avez retrouvé un à Prague, par exemple, qu'on ne connaissait pas. Il y a des espoirs de trouver quelques petites choses comme ça éparses. Alors, je ne sais pas si on peut en trouver dans les anciens, les archives de ce qu'étaient les anciens royaumes francs d'Orient, sûrement pas, mais on peut peut-être en trouver à droite et à gauche de temps en temps.
Tout à fait. C'est toujours possible si on insiste à chercher, à faire des recherches. Le cas du manuscrit de Prague, en effet, a été le résultat de toute une série de coups de fil, de questions, de demandes entre une série d'amis et de collègues qui, en fait, ont abouti à cette découverte. Pour une petite... Mais parfois, on a déjà sous les yeux... les documents, mais soit parce qu'ils sont mal classés soit parce qu'on n'a jamais eu l'attention d'y lire, de lire à l'intérieur, dans les détails, tous les manuscrits, mais parfois il existe déjà. Je vous fais un exemple énorme qui est en fait les actes du procès avec l'absolution du grand maître Jacques Desmollets par le pape, qui a été redécouvert par Barbara Frale dans les archives du Vatican récemment. Et là, il était toujours là, donc personne l'avait
mais simplement subtilisé, voilà. On ne le voyait pas. Un autre exemple, peut-être, vous évoquez dans votre livre La Révolution des Templiers d'autres exemples, et puis vous dites en particulier quelque chose de très important et de très intéressant, que j'ai totalement découvert, je ne savais pas ça du tout, que ces règles et les règles d'origine sont écrites en langue d'Oïle, et que vous interprétez l'écriture de cette règle d'origine en langue d'Oïle, justement peut-être parce que issue de cette Champagne dont parlait tout à l'heure Yann Potin, comme étant un signe en particulier du fait qu'il fallait bien échanger dans d'autres langues que le latin dans cet Orient des croisades, et que cette langue d'Oïle était partagée dans une sorte de sabir oriental par tous les croisés qui se trouvaient sur place, qu'ils soient d'origine anglaise, qu'ils soient d'origine allemande, qu'ils soient d'origine du Royaume de France ou de l'Empire.
Tout à fait. Là, c'est une, à mon avis, donc c'est un autre résultat de cette attitude révolutionnaire de Hugues. C'est l'importance donnée à la langue vulgaire, car ils sont des laïcs, dans le domaine donc de la divulgation des traductions en langue vulgaire, d'abord de textes importants latins, comme les textes sur l'Apocalypse, par exemple du moine Hatzon de Montirandier, et des textes donc hauts de théologie même. Et donc, ce qui démontre que les Templiers n'étaient pas du tout des non-savants ou des illettrés, mais ils étaient aussi concernés par la culture, la haute culture de l'époque. Et, mais dans cette la langue vulgaire qu'ils ont choisie est, à mon avis, par imitation au latin, qui était la langue des clercs, devient une langue vulgaire pour tout le monde, une sorte de francophonie avant la lettre, et donc devient la langue d'œil.
Voilà, alors c'est ce que vous expliquez dans votre livre, La Révolution des Templiers. Alors il y a 50 ans, on n'en était pas encore là dans l'analyse des textes. Il y a 50 ans, dans Analyse spectrale de l'Occident, l'émission qui avait été confiée donc, pour l'occasion à propos des croisades à Alphonse Dupron, on pouvait entendre, Yann Potin, un extrait d'un texte d'Albert Olivier. Donc, c'était donc un historien de l'époque qui tente de décrire l'Orient des croisades.
C'est-à-dire qu'il tente de justement tirer de la règle, finalement, une description de cette vie quotidienne impossible à reconstituer sans archives.
Voilà, la vie quotidienne à Jérusalem, alors que le temple et les Templiers y sont installés.
Le temple se présentait à Jérusalem comme une ville dans la ville. Il occupait la mosquée El-Aqsa et celle de Koubet et Sakra, qu'on appelait alors le temple de Salomon, ce qui avait suscité le nom de Militia Templi, frère du temple ou Templier. En dessous se trouvait aménagé un vaste souterrain qu'on nommait Écurie de Salomon. Les décrivant dans son livre « Égypte et Palestine », publié en 1896, Delmas dit « C'est une construction du genre colossal, de 83 mètres de long sur 60 de large, composée de 13 voûtes à berceaux, soutenues par 83 piliers dont quelques-uns sont monolithes. » Pareil souterrain étonna Jean de Wurtzbourg, le croisé allemand qui décrivit sur ses carnets « On voit une écurie d'une capacité si merveilleuse et si grande qu'elle peut loger plus de 2000 chevaux ou 1500 chameaux. » Pour les hommes reçus, le réfectoire, qu'on appelait le palais, ne devait pas être moins imposant. Dans sa vaste salle voûtée à colonnes, les murs, comme ceux des églises du temple, portaient des trophées d'armes, des épées, des haumes damasquinés, des boucliers peints, des cottes de mailles dorées prises à l'ennemi, mais aucune statue. Les repas se déroulaient en silence, et chacun prenait soin de laisser des restes pour nourrir des mendiants. Quand un frère mourait, un pauvre mangeait 40 jours la part du défunt. Le logement variait selon le grade et la fonction. Les chevaliers se trouvaient dans des cellules donnant sur le même couloir et les sergents dans des dortoirs. Ces éléments de base, chevalier et sergent, se distinguaient les uns des autres par la naissance. Pour être admis, les premiers devaient pouvoir assurer qu'ils étaient bien fils de chevalier et de dame, tandis qu'on demandait seulement à ceux qui voulaient être sergents s'ils étaient des hommes libres, c'est-à-dire non serfs d'un seigneur pouvant les réclamer. Les moyens de combat qui leur revenaient étaient aussi différents. Selon les retraits, statuts, chaque chevalier avait le droit de posséder un écuyer et trois chevaux. Son écuyer pouvait être à gage ou, comme dit la règle, servir de son bon gré à la charité. Mais dans ce cas, le frère ne doit le battre pour nulle culpe qu'il ne fasse. Quant au sergent, s'il se trouvait à peu près armé comme le chevalier, il devait en revanche se contenter d'un cheval et, privé en campagne de tente et de chaudron, dormir au plein air en prenant ses repas avec les autres. Seul parmi les sergents, le frère cuisinier et le maréchal ferrant du couvent, le sous-maréchal et le gonfanonnier gardaient le droit d'avoir deux chevaux et un écuyer. Le gonfanonnier tenait une place particulièrement importante. Il devait engager, commander, payer les écuyers et les diriger en bataille avec un étendard, ou gonfanon. Cet étendard ne se confond pas avec celui de l'ordre, le fameux « beau sang », auquel certains commentateurs ont voulu donner une signification fantaisiste, y voir une esquisse de Beauséant, alors que le mot marque simplement la composition de deux couleurs, le noir et le blanc. Un des amis des Templiers, Jacques de Vitry, racontera même pourquoi ils ont adopté ces deux couleurs, pour signifier qu'ils sont francs et bienveillants pour leurs amis noirs et terribles pour leurs ennemis. Des lions en guerre, des agneaux en paix. Plus tard, ils ajouteront une croix de gueules brochant sur le tout. À côté de ces combattants occidentaux se trouvaient les Turcoples, troupes légères, auxiliaires, composées d'indigènes, de musulmans convertis, d'esclaves affranchis, qui avaient un chef particulier, le Turcopli, dépendant directement du maître et du maréchal du temple. Les soldats Turcoples recevaient une solde et ne devaient, lors de leur engagement, que fournir des harnais. Au-dessus de tous les simples combattants, il y avait les commandeurs des maisons aux responsabilités locales, comme leur nom l'indique, et au pouvoir limité, ainsi que les commandeurs des chevaliers. Enfin, les officiers intérieurs importants, le commandant de la terre et royaume de Jérusalem, qui assurait la trésorerie et l'administration de la première province de l'ordre, le commandeur de la cité de Jérusalem, qui veillait sur les pèlerins de Terre Sainte et assurait leur ravitaillement, enfin les commandeurs des régions importantes, ceux d'Antioche, de France, du Poitou, d'Angleterre, d'Aragon, du Portugal, de Pouille et de Hongrie. Au sommet, les trois personnages décisifs de l'ordre en Orient étaient le maréchal, qui disposait des armes et des chevaux, le sénéchal, qui secondait le chef suprême, le maître. Arrêtons-nous à ce dernier. Car si l'on peut relever dans la règle du temple d'autres détails sur la hiérarchie de l'ordre et l'organisation des fonctions, il s'agit là surtout de simples modalités pratiques, comme tout organisme collectif en implique. Comme le soulignait déjà Henri Curzon, le grand maître était un souverain très puissant, mais non pas absolu. Certes, la règle dit qu'il doit tenir en la main le bâton et la verge, c'est-à-dire le sceptre et l'épée, le pouvoir moral et le pouvoir politique. Mais en vérité, s'il pouvait disposer d'une partie des ressources financières, il n'en demeurait pas moins pour la plupart des questions importantes comme céder une terre, assumer la charge d'un château, décider une attaque ou un armistice, obligé de consulter son chapitre ou son conseil et de se soumettre à l'avis de la majorité. Dans l'exercice de ses fonctions, le maître était assisté de deux frères chevaliers de rang assez notable. Il possédait quatre chevaux. Le maître ne manquait pas de moyens militaires et matériels, mais rien ne marquait son autorité ou son caractère spirituel. Il apparaissait d'abord comme un dux bellorum à la manière du légendaire roi Arthur.
Un enregistrement de 1958 pour Analyse spectrale de l'Occident, une série qui avait été confiée pour cette partie consacrée aux croisades à l'historien donc de la Sorbonne, Alphonse Dupron. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre cette description de l'organisation de l'ordre, de la façon dont cet ordre se meut dans le Jérusalem de l'époque du XIIe et du XIIIe siècle, Simonetta Cherini? Est-ce que vous pouvez connaître vous-même en tant qu'historienne 50 ans plus tard? Est-ce qu'il y a une description totalement différente ou est-ce que tout ce qui est dit ici, vous le reprendriez à votre compte?
Alors malheureusement, je n'ai pas pu écouter toute la description qu'il a faite. Donc, j'ai entendu simplement le fait qu'il était donc installé dans la mosquée Al-Aqsa, et ça c'est très important quand même pour le reste. Mais malheureusement, je ne pourrais pas donner une réponse.
Alors justement, sur cette installation dans la mosquée Al-Aqsa, donc sur le temple en particulier de Jérusalem, il y a quelque chose d'important à dire, Yann Potin.
Oui, puisque cette mosquée Al-Aqsa, donc qui est sur aujourd'hui toujours sur l'esplanade dite des mosquées justement ou l'esplanade du temple. Qui n'est donc pas à confondre avec le dôme du rocher, et qui pourtant, au XIIe siècle et dans le regard des pèlerins, tout cet espace était assimilé justement au temple de Salomon, où disons la mosquée Al-Aqsa était assimilée tour à tour au palais de Salomon, et le dôme du rocher étant assimilé, sinon au temple de Salomon, au temple du Seigneur. L'autre temple étant l'église du Saint-Sépulcre, qui est un peu plus loin dans la ville. Donc, ce qui est évidemment très important dans cette installation, c'est que c'est d'abord la cristallisation.
Alors c'est le roi Baudouin II qui donne cette installation, qui donne cet endroit-là comme siège justement de cet ordre nouveau.
Tout à fait, donc dans la première moitié du XIIe siècle. Et ce qui est important, c'est que outre la christianisation ou la recristianisation d'un lieu qui déjà est multiconfessionnel, il y a l'origine du mot templier, qui finalement, ce qui prouve que cet ordre un peu exceptionnel a besoin de cette localisation et d'une localisation que Michelet aurait dit un peu dangereuse, puisqu'elle revient à évoquer des références antérieures au christianisme.
Alors, Simonetta Cherini, vous insistez beaucoup, et c'est un des apports de votre travail dans la Révolution des Templiers, peut-être contesté par certains d'ailleurs, vous insistez beaucoup sur l'idée que ces Templiers, bien que partis pour la croisade, y auraient vécu, non pas dans une saine et franche amitié, mais disons des relations suivies avec les dignitaires musulmans de la région. Vous évoquez la personnalité d'Oussama, qui, si je ne me trompe, a été déjà étudiée par André Miquel. Donc vous y évoquez la personnalité d'Oussama. Et vous dites, ben voilà, on a un personnage qui nous montre par ses récits qu'il y avait une cohabitation possible. Est-ce que ça n'est pas une lecture typique d'aujourd'hui que vous faites, Simonetta Cherini, typique d'aujourd'hui de cette volonté de rapprochement contre la guerre des civilisations, justement en oubliant tout de même que ces Templiers sont aussi là pour la croisade?
Donc d'abord, c'est vrai, donc j'ai fait exprès en fait d'insister sur ces documents. D'ailleurs, ce sont des documents, donc ce sont des réalités, ce ne sont pas des inventions.
Les documents sont là, mais l'interprétation est libre, et c'est votre interprétation aussi, Simonetta Cherini.
Mon interprétation est que jusqu'à maintenant, on a complètement oublié ces côtés. Donc mon intention est celle aussi de mettre l'accent sur cette attitude qui est vraie et qui s'est montrée par qui était normale tout à fait. Les historiens le savent très bien, mais souvent ce qui arrive à l'opinion publique, au gros public, n'est pas il arrive en fait d'autres images qui sont peut-être plus liés à l'imaginaire qui s'est créé après le 19e siècle.
Un imaginaire de combat, et vous favorisez un imaginaire, non pas de cohabitation, c'est ça?
Ces documents, par exemple, je rappelle la fréquence des pèlerinages communs entre les chrétiens d'Orient et les musulmans, au sanctuaire de la Vierge de Saïdnaya près de Dama, qui existe encore, et auquel ont participé également plusieurs Templiers. Donc parmi ce que les témoignages nous disent, que sont surtout les Templiers parmi les chrétiens latins qui ont participé à ces pèlerinages et à la Vierge de Sedanya, qui était très fréquentée, donc qui était un acte religieux, donc une liturgie partagée par plusieurs religions en Orient. Et donc ils enlevaient, ils prenaient, ils achetaient des ampoules d'huile miraculeuse qui après se trouvent maintenant dans plusieurs églises de France et d'Europe.
Anaïs Quien.
Oui, après, après la défaite et la perte de la Terre Sainte, après 1291, les Templiers finalement croisent un problème de reclassement de leur activité. Et contrairement aux chevaliers teutoniques, ordre qui existe encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas finalement à s'adapter au nouveau contexte, ou en tout cas on ne les laisse pas faire. D'ailleurs, il y a un projet de fusion avec les hospitaliers que Jacques de Molay, le grand maître de l'époque, refuse complètement.
Oui, et qui est d'ailleurs peut-être une des raisons, enfin c'est une des interprétations justement de ce qui s'est passé ensuite et de l'arrestation et donc de la fin de l'ordre. Yann Potin.
Oui, pour revenir sur cette question effectivement qui est importante du rapport des Templiers avec éventuellement l'islam, ne serait-ce que parce que c'est une question qui a entretenu évidemment la légende noire, et c'est important de constater que, et là aussi en recontextualisant, que la société croisée, si j'ose dire, la société des colons entre la première croisade entre 1099 et 1187 du royaume de Jérusalem est une société de toute façon à tendance cosmopolite, si j'ose dire, c'est-à-dire qui est nécessairement en contact avec et donc les Templiers s'insèrent aussi là-dedans. En revanche, et là je serais peut-être pas tout à fait sur le même ligne que Simonetta Cherini, c'est le problème, c'est que finalement il y a comme une symétrique entre eux, et le texte de Saint Bernard qu'on a lu en commençant est tout à fait symptomatique. Il se termine par l'éloge du martyr pour la foi.
Bah oui.
Et c'est au même moment où dans l'islam on invente le djihad, ou plutôt où le djihad se fortifie en réponse aux croisades. Et donc en fait c'est plutôt le dédoublement de deux figures de saints prêts à mourir pour la foi, ou de proto ou de presque saint, après de savoir s'ils peuvent dialoguer ensemble, ils commencent d'abord par se taper dessus.
Oui, vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, le livre paru récemment de John Tolan, qui s'appelle Le Saint et le Prophète, dans les collections, je crois, à l'Univers historique, au Seuil, Simonetta Cherini, dans lequel il explique qu'une simple rencontre à peine mentionnée dans les sources de François d'Assise lors de la croisade à Damiette a été réinterprétée de façon considérable jusqu'à aujourd'hui, à la fois parce que certains ont dit à une certaine période, favorisant le côté martial, il était venu pour convaincre et pour obliger donc le sultan à se convertir. D'autres disent aujourd'hui, et en particulier le pape Benoît XVI, je crois, eh bien non, au contraire, c'était pour dialoguer, c'était pour le dialogue des religions, ce qui prouve bien, Simonetta Cherini, qu'un même événement peut être lu selon le contexte totalement différemment, comme vous le faites d'ailleurs, Simonetta Cherini.
Tout à fait. Donc pour ce qui est de je n'ai pas lu ce livre, je dois le dire, mais pour ce qui est de Saint-François, on a d'ailleurs présenté surtout son idée de martyr, sa volonté donc de
martyr. Oui,
oui,
ça a été aussi une des lectures possibles. Oui, allez-y, continuez.
Oui, pour ce qui est des Templiers, ce qui m'intéresse est surtout de montrer cette possibilité de l'époque, donc du Moyen-Âge, de dire qu'en effet, il y avait la possibilité concrète de cohabiter et même de partager d'autres liturgies. Et cela, à mon avis, s'y était courant dans l'Orient. J'ai pu, par exemple, grâce à l'aide de M. Jean Richard, récupérer et interpréter un article de retrait très curieux sur une liturgie du Jeudi Saint, qui en fait était une liturgie suivie donc par les Templiers, mais qui était originaire des chrétiens d'Orient, et surtout des chrétiens de Chypre. Donc une liturgie très bizarre qui était donc prise par les Templiers. Et donc cette possibilité d'échange au niveau spirituel et liturgique, et donc du sacré, dans le domaine du sacré, est quand même à attribuer, pas un syncrétisme, une pratique qui évidemment a joué son rôle, mais du point de vue idéal, elle a été quand même théorisée par Hugues À l'origine même du temps.
Dès le départ, expliquez-vous. Oui. Yann Potin, on n'arrive pas très loin de la fin de cette émission et je voudrais qu'on écoute un dernier extrait de cette tragédie de 1805 de Raynouard qui évoque la fin des Templiers. Ce que disait tout à l'heure Anaïs à propos justement du changement qui est le fait que voilà, il n'y a plus de Terre Sainte, il n'y a plus de possibilité de vivre en Terre Sainte, on est obligé de se retirer ailleurs et donc à partir de ce moment-là, mais que deviennent les Templiers? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est une des questions fondamentales, c'est de se poser la question de savoir si leur expérience n'est pas une expérience essentiellement liée à la présence en Terre Sainte.
Voilà, alors vous avez tout à fait raison, puisque, et c'est essentiel de revenir là-dessus, puisque d'une certaine façon, ça dédramatise la fin des Templiers, puisque la fin des Templiers était programmée, si j'ose dire presque, par la disparition d'une mainmise de l'Occident, d'un royaume en occidental en Terre Sainte. Elle n'était pas programmée, mais elle était inéluctable. C'était presque une question, si j'ose dire, elle était inéluctable parce que cette espèce de transgression incroyable, y compris par rapport à la réforme grégorienne, par rapport au statut d'éclairé des laïcs, qu'a représenté la création et l'existence de l'ordre du Temple, n'avait comme seule justification qu'une situation exceptionnelle qui était la défense de la Terre Sainte.
1805, donc Claude Aufort nous lit un dernier extrait de cette tragédie Les Templiers, qu'on peut d'ailleurs trouver comme le texte de Michelet sur l'excellent site de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Gallica, donc cette tragédie des Templiers écrite par François-Marie Raynouard.
Un immense bûcher, dressé pour leur supplice, s'élève en échafaud. Et chaque chevalier croit mériter l'honneur d'y monter le premier. Mais le grand maître arrive. Il monte. Il les devance. Son front est rayonnant de gloire et d'espérance. Il lève vers les cieux un regard assuré. Il prie. Et l'on croit voir un mortel inspiré. D'une voix formidable, aussitôt il s'écrie « Nul de nous n'a trahi son Dieu, ni sa patrie. Français, souvenez-vous de nos derniers accents. Nous sommes innocents, nous mourrons innocents. L'arrêt qui nous condamne est un arrêt injuste. Mais il est dans le ciel un tribunal auguste que le faible opprimé jamais n'implore en vain. Et j'ose t'y citer. » Ô pontife romain, encore 40 jours, je t'y vois comparaître. » Chacun en frémissant écoutait le grand maître. Mais quel étonnement, quel trouble, quel effroi, quand il dit « Ô Philippe, ô mon maître, ô mon roi, je te pardonne en vain, ta vie est condamnée, au tribunal de Dieu je t'attends dans l'année. » Les nombreux spectateurs émus et consternés versent des pleurs sur vous, sur ces infortunés. De tous côtés s'étend la terreur, le silence. Il semble que le ciel descende la vengeance. Les bourreaux interdits n'osent plus approcher. Ils jettent en tremblant le feu sur le bûcher et détournent la tête. Une fumée épaisse entoure l'échafaud, roule et grossit sans cesse. Tout à coup le feu brille. À l'aspect du trépas, ces braves chevaliers ne se démentent pas. On ne les voyait plus, mais leurs voix héroïques chantaient de l'Éternel les sublimes cantiques. Plus la flamme montait, plus ce concert pieux s'élevait avec elle et montait vers les cieux. Votre envoyé paraît, s'écrie. Un peuple immense, proclamant avec lui votre auguste clémence, au pied de l'échafaud soudain s'était lancé. Mais il n'était plus temps. Les chants avaient cessé.
Extrait donc de l'acte 5, scène 8 des Templiers de Raynouard, écrit et publié donc en 1805. Yann Potin, une image particulière, c'est l'image de la fin évidemment, une image qui restera jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au roi maudit, jusqu'à
voilà.
Tous ces moments.
Exactement, parce que c'est l'image de la fin des Templiers, en même temps c'est le début d'une autre histoire, d'une histoire littéraire, cinématographique, puisqu'on a là ici dans ce texte la racine de cette fameuse malédiction, soi-disant prononcée par le grand maître, qui n'existe, malédiction qui n'existe d'ailleurs que parce que la révolution a eu lieu, on est bien en 1805, 10 ans après, et qu'on sait déjà que la 13e génération des fils de Philippe le Bel va disparaître sous le coup de la guillotine. Donc que là, c'est vraiment l'histoire et la légende.
L'histoire par la fin, là,
voilà, c'est ça. Donc on a là la racine, justement, de cette compensation permanente que la transgression des Templiers, la transgression symbolique, sacrale des Templiers a entretenue, c'est-à-dire eh bien, un terreau de légende et qui, là, se transfigure, si j'ose dire, dans l'hypothèse d'une malédiction.
Et nous passons donc au sujet de demain, justement, qui sera le débat historiographique, justement, sur cette fin des Templiers, sur ce procès des Templiers. Merci à vous, Simonetta Cherini, d'avoir été avec nous au téléphone depuis l'Italie. Je rappelle que votre livre, La Révolution des Templiers, est publié chez Perrin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vena Bolivier et Mélanie Chalandon. Ces textes ont été choisis par Anaïs Quien et Yann Potin. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontanille. À la réalisation, Charlotte Roux. Et remercions pour ces lectures en direct, Claude Aufort. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61-23 à la Maison de Radio France ou encore sur le site internet www.franceculture.com, rubrique Les émissions, la fabrique de l'histoire.